لا تعرفون اليوم من تقاتلون.
أما حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة في أمريكا أو في إسرائيل أو في نابشو قبور وشاقوا صدور وقاطعوا رؤوس.
Salam alaikum jamiaan, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live d'Axe de la Résistance, live que nous essayons de perpétuer tous les dimanches soirs à 21h30, un live qui traite et qui analyse l'actualité brûlante du Moyen-Orient, comme vous le savez tous. Comme d'habitude, après les questions que nous avons traitées aujourd'hui, nous vous proposerons un échange avec le public. Voilà, bonsoir Aïssa.
Bonsoir.
Alors, si tu me le permets, je vais faire un bref rappel de l'attaque israélienne donc au début de ce mois. L'entité sioniste a bombardé le consulat iranien à Damas, entraînant la mort de plusieurs membres des gardiens de la révolution iranienne, dont le général Mohammed Raga Zahidi, qui était le commandant de la force Al-Quds pour la Syrie et le Liban. Donc, je rappelle que la force Al-Quds est une des branches des gardiens de la révolution qui agit à l'extérieur de l'Iran. Et elle était présente notamment en Syrie par la volonté du gouvernement syrien. Voilà pour ce bref rappel sur cette attaque israélienne. Est-ce que tu peux nous décrire le contexte dans lequel cette attaque a eu lieu ?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors si on revient un petit peu sur le contexte de cette guerre, il faut quand même préciser qu'avant le 7 octobre, Netanyahou était dans une véritable impasse sur le plan de sa popularité, mais aussi et surtout sur le plan judiciaire. Il était impliqué, ou plutôt incriminé, dans 3 procès. Sa femme, Sarah Netanyahou, était également impliquée dans un procès. Au moment où le 7 octobre se produit, il est déjà dans une situation assez compliquée. Et dans les jours et semaines qui suivent le 7 octobre, Benjamin Netanyahou est en dégringolade totale dans les sondages. Le peuple israélien considère que c'est lui le principal responsable de cette débâcle sécuritaire. Et bien entendu, une des stratégies pour lesquelles a opté Benjamin Netanyahou, c'est la fuite en avant, à savoir de lancer une guerre avec des objectifs qui, pour une fois d'ailleurs, ne sont pas flous comme d'habitude, qui sont beaucoup plus précis, mais absolument inatteignables. Ce qui rendra probablement cette guerre infinie, entre guillemets, en tout cas tant que personne ne le stoppera, il ne pourra probablement jamais atteindre ses objectifs, à savoir d'éradiquer le Hamas, de ramener les otages par la force, à travers des opérations spéciales. Et en ayant mis un plafond, entre guillemets, ou un seuil, d'objectifs très élevés, il est en fait en incapacité de les réaliser et donc il est dans une situation où il peut perpétuellement justifier le maintien et la poursuite de la guerre. Et maintenant, si on revient du coup sur cette frappe contre l'ambassade ou contre la section consulaire iranienne de Damas, il faut comprendre que depuis 6 mois, comme c'était absolument prévisible, Netanyahou ne connaît que des échecs sur le plan militaire. La seule chose sur laquelle il peut un petit peu communiquer vis-à-vis de son peuple, c'est de la sauvagerie avec laquelle il s'attaque à la population civile palestinienne. Mais face au Hamas, force est de constater qu'il n'a rempli absolument aucun des objectifs escomptés et annoncés par son gouvernement. La chute et la dégringolade dans les sondages continuent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il était probablement essentiel et vital pour Netanyahou de créer une nouvelle situation angoissante, de créer une nouvelle menace, et c'est probablement la raison pour laquelle il ne cesse de tirer l'Amérique dans un conflit régional que visiblement Biden ne veut pas.
Alors je me permets de rebondir un petit peu sur ce que tu as dit sur la fin pour te demander justement quels sont les objectifs recherchés par cette attaque, justement.
Alors, je pense que les objectifs, il y a le prétexte. Et puis il y a, à mon avis, les véritables raisons qui s'expliquent par le contexte. Donc le prétexte, c'est clairement de faire payer aux gardiens de la révolution islamique leur soutien à la résistance palestinienne, à leur soutien au Hezbollah, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, cette guerre ne concerne pas que Gaza, elle a une implication régionale. Le Hezbollah frappe des positions israéliennes. Ansarullah au Yémen établit un blocus qui est extrêmement performant, coûteux pour l'entité sioniste et douloureux. On a la résistance islamique d'Irak qui frappe différentes positions sionistes à travers tout le territoire. Mais tous ces moyens matériels sont alloués par la République islamique d'Iran. Donc le premier objectif, c'est d'envoyer un message au monde, mais d'abord à l'Iran, à savoir que vous ne pourrez pas rester impuni. Et puis, à mon avis, il y a aussi tout probablement les véritables raisons que Benjamin Netanyahou n'aborde pas, à savoir qu'en lançant une telle campagne militaire contre l'Iran, on ne pouvait s'attendre qu'à une escalade, qu'à une riposte assez violente de l'Iran, et probablement que Netanyahou espérait par là mettre les États-Unis dans une situation inconfortable, où s'il ne répondait pas à l'Iran, il passerait pour un gendarme en voie de perdre ses moyens dans le monde par rapport à l'image que les États-Unis pouvaient donner d'eux-mêmes il y a 20 ans en arrière. Donc c'était probablement un des principaux objectifs, à savoir d'entraîner les États-Unis dans un embrasement régional qu'Israël ne peut pas assumer à elle toute seule.
Alors, si tu me le permets, je voudrais qu'on essaye de tirer un petit peu les enseignements de cette attaque. Et je voulais te demander quels sont les éléments habituels ou classiques qui ont lieu lors de cette attaque.
Alors, il faut savoir que les affrontements entre le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran et l'armée israélienne ne sont pas du tout nouveaux. C'est pas une nouveauté, cette attaque. Je pense que on a connu véritablement une officialisation de ce type d'affrontement aux alentours de 2018. Il me semble que c'est la première frappe israélienne qui a tué un général iranien en Syrie. Donc je rappelle que la République islamique d'Iran avait envoyé des conseillers militaires pour affronter Daesh et différents groupes terroristes qui voulaient à l'époque le renversement de Bachar al-Assad, et que l'armée israélienne, comme le pouvoir et le gouvernement israélien, soutenaient de différentes manières ces mêmes groupes terroristes dans le Golan et dans tout le sud syrien. C'est la première fois en 2018 que l'aviation israélienne avait mené un raid ayant provoqué la mort d'un commandant iranien. Donc ce n'est pas une nouveauté. Et d'ailleurs, il y a eu des réponses de la part du CGRI, des gardiens de la révolution islamique d'Iran, sur différents terrains de conflit, que ce soit en Irak, de manière officielle, mais aussi probablement de manière officieuse dans plusieurs pays du Moyen-Orient dans lesquels des membres des forces armées israéliennes ont perdu la vie. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de nouveauté et c'est quelque chose de parfaitement habituel. Alors par contre, il y a des développements qui sont significatifs et nouveaux, notamment le fait que l'armée israélienne est cette fois-ci attaquée un service consulaire, donc un service diplomatique. Là, c'est une grande nouveauté, puisque premièrement, ça bafoue le droit international, notamment les conventions de Vienne. Il faut savoir que, de manière générale, les ambassades ou les consulats sont considérés par l'opinion publique générale comme faisant partie du territoire du pays du service consulaire et non du pays hôte, c'est-à-dire que là, ça pourrait être considéré comme un territoire iranien et pas comme un territoire syrien. Alors en vérité, c'est faux. Dans le droit international, c'est une considération qui n'existe pas. Une ambassade d'Iran en Syrie, ça reste un territoire syrien et ça ne peut pas être considéré sur le plan du droit comme un territoire iranien. Néanmoins, le fait que pour l'opinion publique, de manière générale, on considère ça comme un territoire iranien, ça vient rajouter à la gravité de cette attaque. Ensuite, la deuxième dimension, qui est une véritable nouveauté dans cette attaque, c'est le degré du martyr général qui a trouvé la mort du coup dans cette attaque, qui a été tué par l'aviation israélienne. C'est la première fois que l'armée sioniste tue un commandant d'un tel degré hiérarchique. On avait vu, il y a quelques années en arrière, l'US Army qui avait assassiné le général Qassem Soleimani, que Dieu lui accorde les plus hauts degrés du paradis, rahmatullah alayh. Et on avait eu une réponse cinglante de l'Iran. Il y avait une base américaine, Ain al-Assad, qui avait été dévastée en Irak. Mais c'était les États-Unis. Ce n'était pas l'entité sioniste. Là, c'est la première fois que l'armée israélienne s'en prend à un commandant aussi haut placé dans le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran.
Très bien. Si tu me le permets, j'aimerais aborder maintenant avec toi la riposte iranienne. Donc le 13 avril, à peine deux semaines après, l'Iran perpétue une riposte à l'aide d'environ 350 drones et missiles, dont des missiles hypersoniques. Donc l'Iran a frappé directement l'entité sioniste, qui selon moi n'était encore jamais arrivée. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu quels sont selon toi les enseignements à tirer de cette riposte qui est sans précédent sur le sol israélien.
Alors une première remarque, c'est que on a eu le ministre de la Défense à ce moment-là qui a commencé à dire que et à rappeler que l'armée israélienne et le gouvernement israélien n'avaient jamais revendiqué l'attaque contre l'ambassade de Damas. Donc c'était une manière de dire que si l'Iran ripostait, ça pourrait être considéré comme une forme d'attaque parce qu'eux ne se considéraient pas responsables du bombardement contre le consulat de Damas, alors que tout le monde savait que c'était eux, etc. Les radars, et puis même eux n'ont pas nié, en fait. Hein. Donc déjà, c'était une manière de faire marche arrière et de tenter de se protéger. Et c'est là qu'on commence à voir qu'il y avait une inquiétude certaine de la part du gouvernement israélien. L'Iran a très vite affirmé qu'ils allaient répondre et qu'il n'y aurait aucun moyen dans ce monde d'éviter une riposte militaire de l'Iran. La deuxième implication, qui est à mon avis très importante, c'est qu'on a eu une énorme campagne d'intimidation menée par l'OTAN de manière générale, et plus particulièrement les États-Unis d'Amérique, avec à leur côté les armées européennes, britanniques, française, etc., une énorme campagne d'intimidation visant à empêcher la République islamique d'Iran de rendre la pièce de la monnaie à l'entité sioniste. Ça a été un échec total. L'Iran a dit dès les premières heures qui ont suivi cet assassinat qu'ils allaient répondre, et ils ont répondu, malgré toutes les menaces qui leur ont été présentées. Ensuite, troisième implication, une grande différence entre la République islamique d'Iran et l'entité sioniste, c'est que l'entité sioniste a attaqué en traître, lâchement. Elle n'a pas dit « on va venir assassiner vos responsables » et en plus, elle n'a pas revendiqué derrière. Elle a même essayé de jouer sur le fait qu'elle n'avait pas revendiqué pour ne pas se manger la riposte des Iraniens. L'Iran, dès les premières heures, a dit « on va répondre ». Donc vous êtes avertis. Ils ont répondu. Et avant même que les drones et les missiles ne touchent l'entité sioniste, ils ont revendiqué l'attaque en disant « ça y est, l'attaque est partie, maintenant défendez-vous, faites-nous voir de quoi vous êtes capable ». Donc ici, c'est un défi qui leur a été lancé qui est énorme. Parce que ça veut dire que vous êtes en état d'alerte maximum, vous nous avez mis une campagne d'intimidation. On va quand même répondre, et en plus on vous prévient qu'on répond, donc allez-y, faites-nous voir de quoi vous êtes capable, comment vous pouvez arrêter nos missiles. Quatrième dimension, c'est la réussite. Malgré le fait que tout le monde soit au courant, qu'on ait le système de DCA, donc le système de défense aérienne le plus performant au monde, le plus sophistiqué au monde, quand je parle de performance, je parle qui est le plus sophistiqué, qui est techniquement le plus abouti. Bien entendu, dans le rapport de force avec l'Iran, ils n'arrivent pas à faire face, mais c'est quand même, d'un point de vue technique, le système le plus développé au monde. C'est aussi un des plus intenses, c'est-à-dire que sur une surface aussi petite, il n'existe probablement pas d'autre endroit dans le monde sur lequel on a autant de batteries de défense anti-aérienne qui sont déployées. Malgré cela, la République islamique d'Iran a réussi à toucher trois bases militaires. avec des missiles hypersoniques d'une charge explosive qui varie entre 500 et 700 kilos. Donc vous imaginez l'ampleur des dégâts. Alors je tiens à préciser qu'il y a une censure militaire qui a été imposée dès les premières minutes. Il a été interdit à la presse israélienne de diffuser des images. Les quelques images qu'on a, c'est des gens qui ont diffusé sur les réseaux sociaux, donc ça reste très minime. Il n'y a pas eu beaucoup de communication sur les dégâts qu'ont subi ces bases aériennes. Malgré cela, le ministre Ben Gvir a précisé, selon lui, dans une sorte de sortie de piste qui était un peu un coup de gueule de sa part, qu'il y avait eu plusieurs morts dans les attaques. Alors qu'officiellement, le gouvernement sioniste ne reconnaît aucune perte humaine. Et enfin, à mon avis, une grande leçon qu'il faut tirer de cette riposte iranienne, c'est que l'Iran a accepté la proposition d'escalade de l'entité sioniste, c'est-à-dire que premièrement, elle a répondu directement sur des intérêts sionistes. Là aussi, comme il y a eu des développements, c'est-à-dire que les sionistes avaient tapé pour la première fois un service consulaire, qu'ils avaient tapé pour la première fois un commandant d'un tel niveau hiérarchique, alors l'Iran a décidé de dépasser ses lignes rouges habituelles et d'aller frapper les territoires israéliens, entre guillemets, c'est-à-dire les territoires occupés de Palestine, et de frapper des cibles militaires majeures. Il faut comprendre que si la République islamique d'Iran a été capable de toucher des bases aériennes qui sont d'une telle importance stratégique pour l'armée israélienne, ça veut dire que des immeubles dans Tel Aviv, c'est du chewing-gum. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont juste appuyé sur le bouton et ça viendra détruire des immeubles le jour où ils veulent passer à la vitesse supérieure. Donc, ce message qui est envoyé, il est très important parce que non seulement ils ont accepté l'escalade, mais en plus ils ont surenchéri en allant frapper le territoire israélien.
Ce que je retiens de ton analyse, c'est que tout ça confirme la théorie du tigre de papier en fait concernant l'entité sioniste, et ça tord quand même le cou aux idées reçues comme quoi il serait intouchable et surtout il serait tout puissant. Alors justement, outre cette synthèse et de cette analyse, qu'est-ce que selon toi ça traduit de la position sioniste? Qu'est-ce qu'on peut dire des sionistes concernant cette riposte?
Alors déjà, ils avaient affaire à une riposte qui était non seulement prévisible, mais prévue, puisque les Iraniens l'avaient annoncée. Donc, ils étaient sur le qui-vive, avec un degré de préparation optimal et maximum, en état d'alerte maximum. On a noté dès les premières minutes, dès les premières heures de l'attaque, que les plus grandes armées de l'OTAN sont venues se joindre à l'armée israélienne pour détruire les missiles iraniens. Donc que l'entité sioniste, malgré toutes les menaces qu'elle profère à l'égard de la République islamique d'Iran depuis très longtemps, hein, depuis une vingtaine d'années, ils parlent d'aller bombarder les territoires iraniens. Mais en vérité, il n'y a pas de guerre d'Israël contre l'Iran. Ça n'existe pas. Et c'est ce qu'on dit depuis des années sur ce canal. Il n'y aura jamais de guerre d'Israël contre l'Iran. Il peut y avoir une guerre de l'Iran contre les États-Unis, mais jamais d'Israël toute seule contre l'Iran. Donc, le premier point, c'est que Israël a besoin pour survivre, non seulement des États-Unis, mais on l'a vu sur cette séquence historique, de plusieurs des meilleures armées de l'OTAN. La France a participé à abattre des drones iraniens. Les États-Unis ont participé. La Grande-Bretagne a participé. Et la Jordanie, l'armée jordanienne, a également participé à protéger, on va dire, Israël de ces attaques iraniennes. Un deuxième fait qui est très important, c'est que malgré cette implication de l'OTAN pour venir protéger l'entité sioniste, l'OTAN n'a pas contre-attaqué. Et j'irai même plus loin, l'armée française, dès le lendemain, a tout de suite émis des communiqués en disant qu'il n'avait pas agi contre les missiles iraniens pour défendre le territoire israélien, mais pour sécuriser leur présence militaire au Moyen-Orient. Donc en gros, qu'officiellement, ils n'avaient pas pris parti dans ce conflit. Ce qui est un mensonge pur et dur. Quand l'armée française a ciblé des missiles iraniens, C'était bien entendu pour protéger le territoire israélien. Ce n'était pas les positions françaises qui étaient visées en Irak ou en Syrie. Mais c'est une manière d'envoyer un message, premièrement à l'Iran en leur disant « on n'a pas envie de rentrer en guerre contre vous », et deuxièmement à Israël en leur disant « attention, il semblerait qu'il y ait quand même des limites. On ne va pas faire tout et n'importe quoi pour vous, et ça peut déjà, entre guillemets, stopper les espoirs peut-être un peu trop grands de Netanyahou de déclencher un conflit entre l'OTAN et l'Iran. » Le troisième point qui me paraît important, c'est la tentative de minimiser l'échec des Israéliens dès le lendemain. On a vu que le bilan officiel, c'était une quinzaine de blessés, aucun mort, que selon les Israéliens, au tout début, il n'y avait pas de point qui avait été touché par les Iraniens. Or, on avait des vidéos dans la nuit qui montraient qu'il y avait au moins 6 ou 7 frappes qui avaient pu toucher des cibles. On a su plus tard qu'il y avait bien des bases militaires qui avaient été touchées. Plus les heures passaient et plus on a pu constater de la part même des Israéliens que le bilan augmentait. Donc il y avait une tentative de minimiser ce succès iranien et par là même de minimiser cet échec israélien. Ici, je tiens quand même à rappeler que la Jordanie, qui n'était pas le pays visé, a connu 3 morts à cause des missiles qui ont été abattus, peut-être des positions qui ont été frappées. En tout cas, il y a eu 3 morts en Jordanie, alors que ce n'était pas le pays visé. Mais très étrangement, dans l'entité sioniste où des bases ont été touchées, des bases militaires, là, il n'y a aucun mort. Donc, je retiens aussi ce point-là. C'est-à-dire que pendant l'attaque et avant l'attaque, on nous parlait d'une opération militaire qui serait quasiment pire que la Shoah et Daesh réunis. Et dès que l'attaque était passée et que l'Iran a dit « ça y est, c'est fini, si vous n'allez pas plus loin, on s'arrête là », ils ont commencé à bomber le torse en disant « voilà, on a réussi à faire ci, on a réussi à faire ça ». Il y a un point aussi que j'aimerais rajouter. Je crois que c'est le porte-parole de l'armée de Tsahal a dit qu'ils avaient réussi à intercepter 99% des projectiles balistiques lancés par l'Iran, alors que les États-Unis ont annoncé en avoir abattu à eux seuls 70. La France en a abattu aussi quelques-uns, la Jordanie en a abattu, ce qui veut dire qu'on était au moins à 30% des projectiles qui ont été abattus par les Alliés. Mais l'entité sioniste, l'armée israélienne, s'est attribuée 99% du mérite de ce qu'elle essaye de faire passer pour un succès militaire, encore une fois pour bomber le torse, après avoir crié à la menace planétaire 24 heures plus tôt. Là aussi, je pense que c'est quelque chose d'assez significatif, parce que avant la réponse, le message qui était envoyé, c'était « Ô monde, venez nous aider, on est les tout seuls face à cette attaque macabre de l'Iran qui peut bouleverser l'échiquier mondial ». Et dès que l'Iran a dit « on n'ira pas plus loin », ils disent « bon, ben c'est bon, même pas mal ». Et ce que ça veut dire « même pas mal » dans le langage des Israéliens, ça veut dire « on n'aura pas besoin de répondre ». Parce que si c'était Gaza qui avait tiré une balle dans un orteil d'un soldat israélien, je peux vous garantir qu'il y aurait eu des destructions d'immeubles entiers pour se venger. Mais là, le « même pas mal », ça veut dire ben, « on n'aura pas besoin de répondre et on n'aura pas besoin de frapper l'Iran ». Donc encore une fois, un aveu d'échec et de faiblesse.
Très bien, bah écoute, je te remercie. Alors moi, je profiterai pour dire que même si l'entité sioniste, dans ses plus beaux rêves, avait intercepté 99% des projectiles, j'aurais envie de dire « et alors ?» puisque la stratégie iranienne est justement de saturer toutes les batteries anti-aériennes dont tu as très bien parlé tout à l'heure, afin de pouvoir justement frapper avec les peut-être soi-disant 1% qui restent. Donc si les 1% qui restent sont des missiles hypersoniques dont la charge est comprise entre 500 et 700 kilos, je pense que ça peut largement suffire pour atteindre les objectifs iraniens.
Et puis il faut aussi souligner le fait que cette nuit a coûté à l'entité sioniste, mais donc aux contribuables américains et européens, en vérité, entre 500 millions et 1,3 milliard de dollars, selon les estimations. Alors, j'aimerais rappeler que l'aide annuelle des États-Unis destinée à l'entité sioniste, notamment pour des questions de défense, c'est environ 3 milliards de dollars. Ça veut dire que 3 attaques de ce type, on va dire 4 ou 5 si on veut aller dans les estimations les plus optimistes pour Israël, avec 5 nuits d'attaque de ce type, le budget annuel alloué par les États-Unis à la défense israélienne est englouti. 5 nuits. Il y a quelqu'un qui veut une guerre de longue durée avec l'Iran ? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut une guerre de longue durée avec l'Iran ? Est-ce qu'ils en sont sûrs de ça ? Je crois pas. J'en doute.
Alors, je voudrais revenir avec toi, si tu me le permets, sur les rumeurs de récentes ripostes sionistes. Selon toi, quelle serait la nature des prétendues ripostes israéliennes à cette riposte iranienne, puisqu'ils ont revendiqué donc une contre-riposte, si on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ?
Alors déjà, non, ils ne l'ont pas revendiqué. Ils ne l'ont pas revendiqué. Il y a eu des événements qui ont été présentés par-ci et par-là dans la presse comme pouvant être des ripostes israéliennes, mais eux se sont bien gardés d'avoir revendiqué une quelconque implication dans ces actions militaires. La première, c'est, il y a environ 2 jours, une explosion qui a eu lieu pas loin d'une grande ville iranienne qui s'appelle Isfahan. Donc certains médias ont prétendu là qu'il s'agissait de la riposte israélienne. Alors, je n'ai pas de détails, on va dire, sur ce qui s'est produit. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de gens qui en aient pour l'instant. Mais ce que l'on peut dire, c'est que ça n'a absolument rien de nouveau. Quand bien même ça serait Israël qui aurait fait ça sans le revendiquer, puisqu'ils ne l'ont pas revendiqué, ça ne serait pas du tout une escalade. Parce que là, on parle de petits drones, si vous voulez, on est même pas dans le niveau des drones utilisés par le Hezbollah, quoi. Donc, ce n'est pas du tout une escalade. Deuxièmement, c'est des attaques qui ont déjà eu lieu dans la région contre l'Iran et qui n'ont pas été menées par Israël, qui sont en général menées par les milices kurdes ou potentiellement par des groupes entre guillemets que le pouvoir d'Azerbaïdjan laisse proliférer sur son territoire. En l'occurrence, vu la localisation d'Isfahan, c'était beaucoup plus probablement des attaques qui provenaient d'Irak, donc des milices kurdes. Mais c'est probablement pas l'armée israélienne qui a pu lancer ce genre d'attaque. Si une telle attaque avait été lancée depuis le territoire israélien, ça aurait été repéré. Donc pas de revendication, un procédé qui ressemble plutôt à la guerre des proxys habituels, pas de nouveauté et pas d'escalade. Ça, c'est pour la première prétendue riposte. La seconde prétendue riposte, c'est un bombardement qui, là, pour le coup, semble bien être un bombardement israélien contre une position du Hajj Charbi, donc les forces de la mobilisation populaire en Irak, qui est une faction armée instaurée en 2014 pour combattre l'expansion territoriale de Daesh en Irak. Donc déjà, c'est symboliquement très fort qu'Israël vienne bombarder une telle force armée, puisque ça participe clairement à soutenir l'effort de Daesh pour déstabiliser l'Irak. Mais là aussi, ce n'est pas la première fois. Là aussi, ce n'est pas la première fois que l'entité sioniste bombarde des positions du Hajj Charbi en Irak. Donc, ça n'est absolument pas une escalade. Il n'y a pas eu de responsable iranien touché dans ce bombardement, et ça n'est pas un territoire iranien. Donc, au pire, on peut replacer ça dans le contexte de la guerre des proxys. Et j'ai envie de dire, le fait d'avoir bombardé le Hezbollah ou de bombarder le Hamas, c'est aussi la logique de la guerre des proxys. Et donc, ça n'est pas significativement moins important. Tout ça pour dire qu'il n'y a absolument aucune escalade dans cette riposte israélienne, que ce n'est pas une riposte qui concerne l'Iran directement. Donc, c'est clairement un choix de botter en touche et de ne pas aller chatouiller l'Iran une fois de plus. Et tout ce que l'entité sioniste réussit à faire, en prenant soin de ne pas revendiquer, en prenant le soin d'utiliser leur capacité technique pour éviter soigneusement de frapper un commandant iranien, tout ce que ça prouve, c'est que l'entité sioniste cherche, à travers ses réseaux médiatiques, à sortir la tête haute et à bomber le torse, alors que sur le terrain, elle n'a fait que sortir de plus en plus humiliée de cet affranchissement qu'elle a elle-même déclenché et qu'elle essaye et qu'elle essaye de désenclencher en sortant la tête haute. Alors ça peut peut-être tromper les plus dupes, ceux qui connaissent le moins la situation au Moyen-Orient, mais sur le plan militaire, sur le terrain, les experts, et j'ai envie de dire même les alliés d'Israël, savent très bien la leçon qu'ils peuvent tirer de ça, à savoir que l'entité sioniste n'est absolument pas prête pour un affrontement direct avec la République islamique d'Iran.
Est très étonnant puisque dès le départ, on a bien senti que les États-Unis n'interviendraient pas et n'aideraient pas Israël à une contre-attaque. Et dans ce contexte-là, comment est-ce possible qu'Israël fasse quoi que ce soit contre l'Iran ? Israël n'en a pas la capacité militaire. Sans le grand Satan, elle ne peut pas intervenir en Iran. C'est impossible. La position américaine ne m'a pas personnellement beaucoup surpris, puisque je rappelle que quand ils avaient assassiné le général Haj Qasem Soleimani, rahmatullah alayh, et que donc l'Iran avait, en réponse, avait rasé une base américaine, chose qui n'était pas arrivée depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien les Américains n'avaient pas répliqué. Donc c'était un scénario, selon moi, qui était prévisible. Et une fois de plus, je pense qu'Israël a fait ce qu'elle sait le faire le mieux face à l'Iran, c'est-à-dire coucou je panier et rester bien gentil à sa place. Alors je voudrais que tu me donnes, selon toi, l'impact qu'a eu cet épisode par rapport à la guerre entre l'entité sioniste et les Palestiniens, notamment à Gaza.
Alors déjà, on peut noter que durant cette nuit de bombardement, le peuple de Gaza était sur les toits, alors que le peuple colonial sioniste était dans les abris. Si c'est un grand symbole, de manière générale, ça l'est encore plus depuis le 7 octobre et depuis, appelons ça un génocide, un massacre, peu importe, moi ce n'est pas les termes qui m'intéressent, mais ce qui m'intéresse, c'est les 35 000 morts. Le massacre de masse qu'est en train de faire subir l'armée israélienne au peuple palestinien. Pendant une nuit, les enfants de Gaza ont pu arrêter de pleurer, des familles ont pu sortir sur les toits et elles ont pu regarder l'entité sioniste connaître un état de terreur qu'elle essaye d'imposer à Gaza depuis 6 mois. Donc symboliquement, c'est déjà très fort. Je pense aussi qu'il faut parler de l'échec de Netanyahou. Aujourd'hui, après cette attaque iranienne, je regardais des sondages tout à l'heure, on a 68% des Israéliens qui considèrent que Netanyahou est en train de perdre à Gaza. Combien d'entre eux, lorsqu'ils se cachaient dans les abris, considéreraient, si jamais on faisait un sondage, que Netanyahou a été à la hauteur face à l'Iran? Si Netanyahou perd à Gaza, alors est-ce que Netanyahou est victorieux dans son affrontement avec l'Iran? Actuellement, on a aussi une majorité de Palestiniens, on a une majorité d'Israéliens qui, s'il y avait des élections anticipées, n'éliraient pas Benjamin Netanyahou comme Premier ministre et qui souhaiteraient une passation du pouvoir à Gallant. Donc, on est dans un échec total. En ce qui concerne l'Iran, on a un bouleversement, je pense, en tout cas une évolution considérable sur le plan géostratégique, à savoir qu'elle a prouvé encore un peu plus, même si tout le monde le savait jusqu'à présent, que quand l'Iran parle, l'Iran agit. Et on parle sur le plan militaire, hein. On ne parle pas de créer des films ou des séries télévisées. Hein. Quand l'Iran parle, l'Iran agit. Quand bien même la terre entière se coalise pour aller mener une campagne d'intimidation, l'Iran agit. Un point qui est intéressant, c'est que dès que l'Iran a dit « Voilà, notre riposte a été celle-ci, si vous ne ripostez pas, on ne monte pas dans une escalade. Si vous ripostez, vous allez connaître une attaque bien plus importante. » Alors même les responsables israéliens et le peuple israélien, lorsqu'ils ont entendu les Iraniens dire « On n'ira pas plus loin », ils ont commencé à ressortir dans les rues, ils ont repris une vie normale, c'est-à-dire que même eux font confiance à l'Iran. Ils font confiance quand l'Iran va dire « On va vous frapper, des missiles vont toucher votre territoire ». Ils leur font confiance, ils disent « Ça va vraiment arriver, on va descendre dans les abris ». Et quand l'Iran dit « C'est bon, c'est fini, si vous ne poussez pas le vice plus loin, on arrête là », ils ressortent et ils revivent de manière normale. Aujourd'hui, ça veut dire que les Israéliens croient plus les dirigeants de la République islamique d'Iran qu'ils ne croient les gens qu'ils ont mis au pouvoir. La force de dissuasion aujourd'hui, la capacité de dissuasion de l'Iran est rentrée dans un autre niveau sur le plan international. Le message envoyé, c'est que quand bien même les USA avaient laissé planer le doute qu'ils pourraient répondre aux côtés d'Israël, l'Iran frappe quand même. Donc l'Iran n'a pas peur de l'armée américaine. Et un des messages, c'est que quand l'Arabie Saoudite, il y a un an en arrière, se permettait de menacer l'Iran, quand les Émirats Arabes Unis, je ne vais même pas dire qu'ils jouent les gros bras, mais qu'ils agitent un peu trop leur langue, quand on a des nations, des États plutôt, et des groupes armés qui aujourd'hui cherchent dans la région à se rapprocher soit des États-Unis, soit de l'entité sioniste, en prétendant chercher par là une forme de protection contre les velléités régionales de l'Iran. Est-ce que vous êtes sûr après cet épisode que l'entité sioniste sera capable de vous protéger? Aujourd'hui, si l'Égypte, la Jordanie, si l'Arabie Saoudite faisaient ce type d'erreur, est-ce que vous êtes sûr que vous aurez les Français, les Britanniques, les Américains, l'entité sioniste qui viendront tous vous défendre? Si 7 missiles supersoniques ont pu atteindre avec cette facilité des bases aériennes israéliennes, Qu'en sera-t-il des bases saoudiennes et des bases jordaniennes?
Très bien, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour toute cette, pour tes analyses. Et que Dieu bénisse le peuple palestinien ainsi que tous les peuples du Moyen-Orient qui souffrent de ce cancer qu'est l'entité sioniste et les libère de ce mal. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite à tous une bonne continuation.
أما حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة في أمريكا أو في إسرائيل أو في نابشو قبور وشاقوا صدور وقاطعوا رؤوس.